France Musique.
...1922, ou la lecture de Stendhal en Chine. Je vois dans nos livres autant de billets de loterie. Ils n'ont réellement pas plus de valeur. La postérité, en oubliant les uns et réimprimant les autres, déclarera les billets gagnants. Stendhal, qui regarde ses ouvrages comme des billets à la loterie, possède au moins deux billets gagnants, comme il se plaît à les nommer. Le rouge et le noir et la chartreuse de Parme. Son génie littéraire est reconnu par la postérité comme il l'avait lui-même prévu. Son nom est classé au rang des grands écrivains français et ses livres se trouvent parmi les grandes œuvres littéraires françaises. Le romancier, qui s'affirme milanais, est lu et apprécié par un cercle de plus en plus large d'amateurs dès la fin du XIXe siècle. Si Henri Bell est mort depuis longtemps, Stendhal, lui, survit et s'épanouit. Ce qui est imprévu pour l'auteur du Rouge et le Noir, c'est d'être traduit et lu en chinois. Oui, grâce à son chef-d'œuvre de 1830, un de ses billets gagnants, Stendhal jouit d'une grande célébrité en Chine. De 1922, l'année où son nom apparaît pour la première fois dans une publication chinoise, jusqu'à nos jours, la traduction et l'accueil du romancier grenoblois connaissent une longue histoire dans ce pays oriental. Le Rouge et le Noir, l'œuvre de Stendhal la plus connue en Chine, connaît en effet de nombreuses traductions et exerce une influence considérable sur plusieurs générations de lecteurs chinois. Tantôt, elle est hautement appréciée comme un roman du réalisme critique qui dénonce l'hypocrisie de l'aristocratie. Tantôt, elle est critiquée violemment en tant qu'œuvre préconisant l'idéologie bourgeoise que l'idéologie dominante juge corrompue et décadente. Le personnage de Julien Sorel suscite lui aussi de vifs débats. Tantôt il est considéré comme un héros qui lutte contre la société féodale, tantôt il est attaqué en tant que traître et séducteur. Toutes les fluctuations du sort de Stendhal et de ses œuvres en Chine sont étroitement liées au contexte idéologique et culturel de la société dans les différentes périodes de son histoire. Quand la Chine s'ouvre brutalement au monde extérieur dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle entre dans une longue période d'instabilité. L'effondrement du système impérial, l'établissement de la République de Chine en 1912, l'invasion japonaise et finalement la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. À l'issue de la première guerre de l'opium en 1842, l'ancien empire du milieu, incapable de résister à l'Occident, connaît une ouverture qui lui est imposée par les puissances étrangères. Face à la crise intérieure et à la pression de l'Occident, les rangs des autorités du gouvernement de Chine sont divisés en deux parties. Les conservateurs, qui préconisent la force pour lutter contre l'étranger, et le Yangwu, qui, plus souple, se prononce pour le développement des moyens économiques et militaires, bref, la modernisation. Ainsi, le mouvement dit Yangwu, qui s'étend de 1861 à 1894, établit une trentaine d'écoles occidentalisées qui ont pour but de former des jeunes talents scientifiques, militaires et linguistiques. De son côté, le gouvernement Qing envoie chaque année aux États-Unis, de 1872 à 1875, 30 jeunes élèves pour apprendre les techniques occidentales. Ainsi, le mouvement Yangwu, tout en contribuant à la modernisation de la société chinoise, facilite, voire accélère la pénétration étrangère. Le savoir de l'Occident est alors considéré comme un outil et non une fin en soi. « C'est pendant la dernière décennie de la dynastie des Qing que la situation commence à changer progressivement. Les premières tentatives de réforme littéraire apparaissent. Un flot de traductions et d'adaptations des œuvres littéraires étrangères inonde la Chine pendant la première décennie du XXe siècle. Elles apportent dès lors les pensées nouvelles qui contribuent à accélérer les changements en cours. Mais la révolution de 1911 détruit le cadre de l'Empire et laisse intact l'impérialisme. La République demeure fragile et le pouvoir reste entre les mains des notables. En 1916, le pays est plongé dans l'anarchie et le chaos politique. Les seigneurs de la guerre conduisent alors la Chine au bord de l'abîme. Une crise sociale entraîne en même temps d'importants changements idéologiques et fait alors prendre conscience aux intellectuels de leurs responsabilités. Ils s'engagent ainsi de manière très active dans la vie politique et culturelle. Quand le conflit se montre de plus en plus aigu entre l'ancienne culture conservatrice du confucianisme et la nouvelle culture fondée sur les pensées progressistes venues d'Occident, les intellectuels font leur choix. Il faut rompre définitivement avec toutes les traditions chinoises afin de sortir le pays de son état de prostration. Les jeunes intellectuels essaient alors de trouver à l'étranger, soit au Japon, soit en Europe, une voie pour redresser la patrie. Ils déclenchent le mouvement de la nouvelle culture. Mouvement à la fois intellectuel et politique, dont le projet est d'éveiller les consciences. Ces jeunes intellectuels qui critiquent avec véhémence l'ancienne culture ont soif des littératures étrangères. Des revues telles que Nouvelle Jeunesse commencent à présenter les courants littéraires occidentaux, les écrivains et leurs œuvres. Et tout en promouvant le mouvement de la nouvelle culture, introduit le courant réaliste européen et d'autres courants littéraires. Elle publie ainsi des traductions de Turgenev, d'Oscar Wilde, d'Ibsen ou d'Andersen. Mais aussi de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, qui est le plus célèbre ouvrage littéraire traduit du français. 17 auteurs français sont traduits avant 1917, parmi lesquels Alexandre Dumas père et fils, Victor Hugo, Maurice Leblanc et Jules Verne. Curieusement, Stendhal ne figure pas parmi les premiers élus. Le roman 93 de Victor Hugo séduit en effet le peuple chinois pour sa toile de fond des plus terribles années de la Révolution française. Ou Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, pour son esprit aventurier. L'auteur du Rouge et le Noir, celui aux yeux duquel tout homme qui souffre d'amour se rappelle involontairement des chants divins du génie Mozart, ne correspond pas encore à l'attente du public chinois. Curieusement, l'ouvrage stendhalien « De l'amour », dont la réception dans son pays natal connaît un début décevant, devient heureusement la première œuvre de l'écrivain à voir le jour en Chine et à recevoir un accueil enthousiaste des lecteurs chinois. Le célèbre journaliste et traducteur du roman Ren Baitao est concerné par l'éducation des femmes pour assurer le relèvement de la Chine et pose ainsi la question. Comment les femmes qui n'ont jamais reçu d'éducation, qui possèdent donc rarement la raison et qui vivent comme les animaux, pourraient-elles donner naissance à des êtres humains dotés de bon sens ? Il publie dès lors une traduction abrégée en 1925 sous le titre de « L'analyse et la recherche psychologique de l'amour ». Puis la même année, il traduit le chapitre 54 du livre 2 sous le titre « Les principes de la théorie stendhalienne sur l'éducation des femmes ». Ainsi évoque-t-il sa rencontre avec l'ouvrage de l'amour. Depuis ces derniers temps au Japon, les ouvrages et les traductions concernant le sexe se voient très à la mode. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Pourtant, si l'on ne fait que vulgariser les connaissances sexuelles en négligeant les principes moraux de l'amour, je crains fort que les préjugés traditionnels ne deviendront pires. Il existe en Occident de nombreux ouvrages sur la psychologie de l'amour qui étudient les relations variées entre le corps et l'âme. Stendhal, romancier, critique éminent, dont les grands écrivains tels que Taine, Zola et Nietzsche font l'éloge, a écrit un chef-d'œuvre intitulé « De l'amour ». Désormais, je retiens par cœur le nom de cet ouvrage stendhalien, « De l'amour ».
À réécouter sur francemusique.fr.